Hello, salut, comment ça va?
Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteur du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète?
Hello, salut, comment ça va?
Saison 3, épisode 5. Les territoires peuvent-ils se passer de la jeunesse?
Hello, salut, comment ça va?
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète, un épisode consacré à la jeunesse et à ses territoires. Vous le savez très certainement. Et si vous ne le savez pas, nous allons peut-être vous l'apprendre. L'un des objectifs du développement durable, le 4, pour être très précis, s'intéresse à la question de l'éducation et l'éducation à sa journée mondiale. Elle se tient annuellement le 24 janvier. Il était donc tout naturel qu'avec notre partenaire, le Rameau, on s'intéresse à cette question qui est assez centrale. La place des jeunes dans les territoires, dans les politiques territoriales. Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre territoire, monde académique, jeunesse? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Et puis, bien évidemment, qui dit journée mondiale dit aussi publication. Le Rameau publie d'ailleurs à cette occasion un livret qui est une synthèse des débuts des travaux qui vont être réalisés sur les 18 prochains mois. Jeunes et territoires 2050. Sur la période 2022-2027, le Rameau va donc creuser cette question. Des premiers enseignements ont été publiés le 5 octobre dernier au comité économique, social et environnemental. Et on va voir cela avec nos trois invités, puisqu'ils sont trois, voire même quatre. Je vous les présente rapidement. Tout d'abord, Camille Roger, qui est la chef de projet au Rameau Jeunes et Territoires 2050. Bonjour Camille.
Bonjour à tous.
Et puis avec vous, avec nous, Angélique Figari, cofondatrice de la Maison de l'Apprendre à Lyon. Bonjour Angélique.
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis Guillaume Allot de l'ITEM Centrale Lille, un jeune étudiant, on parlera avec lui du programme Boost et d'Aurore. Bonjour Guillaume.
Bonjour à toutes et à tous.
Et nous rejoindra d'ici quelques instants Valérie Dumontet, qui est vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, en charge des questions de solidarité et de jeunesse. Mais comme vous le savez, quand on est élu, des réunions s'intercalent dans les emplois du temps déjà très chargés, donc on l'attend avec grande impatience. Je vais commencer avec vous, Camille, si vous voulez bien, puisque vous représentez le Rameau. Vous êtes chef de projet en charge justement de cette question débattue et étudiée par le Rameau Jeunes et Territoires 2050. Dites-nous un petit peu quelle est l'origine de ce travail d'étude qui va être mené jusqu'en 2027, Camille Roger.
Bonjour à tous. Donc oui, tout à fait, le Rameau a lancé en octobre 2022 le programme Jeunes et Territoires 2050. Et ce programme, en fait, est venu de la conviction que la jeunesse, aujourd'hui, a un pouvoir d'innovation et est capable de développer énormément de solutions aux besoins et aux fragilités des territoires. Mmh. Donc, à partir de cette conviction, le Rameau a mené 18 mois de cadrage du programme Jeunes et Territoires 2050, donc entre octobre 2022 et aujourd'hui. Et le 24 janvier, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, nous publions le rapport « L'engagement des jeunes en action », qui résume les enseignements qui ont été tirés de ces 18 mois de travaux et de cadrage.
Alors, on est pressé de savoir qu'est-ce qu'il en ressort. Ils ont déjà été présentés le 5 octobre dernier au CESE. Qu'est-ce qu'il ressort de ces 18 mois, Camille Roger?
On peut résumer les grands enseignements de ces 18 mois de cadrage en trois grandes parties. D'abord, une partie qui concerne les jeunes, et l'idée majeure derrière cette partie-là, c'est que la jeunesse n'est pas une catégorie globalisante. On ne peut pas rassembler l'entièreté des individualités que représentent les jeunes derrière ce mot « la jeunesse », même si, bien sûr, la jeunesse, ça part d'une expérience commune qui nous rassemble. Mais pour autant, derrière ça, il y a toute une diversité de personnes, d'aspirations, d'espoir et de craintes. Et donc, on ne peut pas juste étudier, trouver de solutions uniques aux besoins des jeunes.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la question de l'engagement des jeunes ? Est-ce qu'ils sont plus ou moins engagés ? On a le sentiment que l'engagement, c'est quelque chose qui tient à la jeunesse. J'ai été jeune et engagé. Je ne dis pas qu'après, on l'est moins, mais il y a quelque chose de l'idéal dans l'engagement de la jeunesse pour son territoire, pour le monde, pour une cause.
Oui, tout à fait. On remarque aujourd'hui quand même qu'il y a une capacité remarquable des jeunes à s'engager, ce qui traite d'ailleurs de tous les sujets. Et ce qui est remarquable et ce qui ressort de nos travaux majoritairement, c'est l'idée qu'il y a une volonté d'incarner territorialement son engagement. C'est-à-dire que pour les jeunes, derrière l'idée de l'engagement, il y a l'idée du jouet collectif. 70% des jeunes sont persuadés que c'est le jouet collectif qui permettra de réduire les fragilités et d'inventer de nouveaux modèles économiques, socio-économiques durables. Et ce jouet collectif, il s'incarne à l'échelle territoriale. Parce que des leçons des 17 ans de travaux du Rameau, c'est que c'est à l'échelle territoriale que s'incarne l'intérêt général à portée de main.
Guillaume, on parle des jeunes et de l'engagement. Vous êtes jeune, vous avez quel âge d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé.
Eh bien, 20 ans, tout juste à l'instant.
Donc, Guillaume, vous représentez quelque part cette jeunesse dont on parle, hein, les jeunes. Vous êtes, entre guillemets, un jeune. Comment vous réagissez la notion de jouet collectif, d'engagement, de ce que vient de dire Camille, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout ?
Alors absolument, c'est quelque chose que personnellement, je vis pas mal au quotidien, notamment parce que dans notre école, on est des petites promotions. On est par groupe de 60 au départ et on termine vers 45-50 à peu près. Et la notion de jouet collectif, elle est au cœur de tout. La promo est unie et vraiment, on est prêt à en découdre ensemble, prêt à tout. On va porter des projets ensemble du début à la fin de notre scolarité. Et même toutes les associations, clairement, tous nos projets ne se déroulent pas seuls. On s'entraide beaucoup. Et cette notion d'aide mutuelle et justement d'apport de chacun, que chacun apporte ses compétences, elle est vraiment majeure dans ce qu'on peut vivre.
Et vous êtes engagé dans quoi alors, vous, Guillaume ?
Alors, dans le cadre de nos études, on est donc tous engagés en troisième année, donc là c'est mon cas, dans le programme Boost, qui est notamment un programme qui vise à aider le développement des PME du territoire, donc en l'occurrence des Hauts-de-France. Et sinon, il y a aussi nous avons créé récemment, une dizaine, l'association Aurore, qui est une association qui vise à améliorer les relations qui peuvent exister entre les entreprises et les étudiants et aussi entre les formations et les entreprises.
Ce programme Boost, il s'impose à vous dans vos études ou chaque étudiant fait le choix de l'intégrer ?
Alors, en l'occurrence, il s'impose en quelque sorte à nous, bien que imposé soit quand même un terme assez fort, dans la mesure où ça reste une expérience absolument incroyable que de pouvoir, dès sa troisième année déjà, venir et aider réellement, accompagner une entreprise vers sa réussite, on l'espère, vers sa réussite, nous l'espérons future. Il nous est imposé, mais rarement on entend autour de nous des personnes venir le contester. Vraiment, il est plutôt vu comme une opportunité absolument incroyable, déjà de montrer que on sait et de montrer qu'on a déjà notre clé un petit peu en main pour ouvrir de nouvelles portes sur le monde.
Alors concrètement, il vous apporte quoi ? Vous y avez découvert quoi dans ce programme Boost, vous, Guillaume ?
Alors ça dépend, est-ce que vous parlez plutôt personnellement ou professionnellement ?
Les deux, personnellement et professionnellement, parce que je pense que les deux sont intimement liés.
Alors professionnellement, je pense que ça a été surtout beaucoup de capacité à voir en fait où est-ce que nous portent nos études, à mettre un sens concret et dans un sens aussi mettre un sens concret, oui, évidemment, mais surtout de fait de pouvoir déjà réaliser en fait simplement... Alors que nous sommes toujours en école, c'est comme un petit rêve. Alors qu'on est encore en train d'apprendre et de balbutier, on apprend quand même, on marche devant tout le monde un petit peu comme un enfant. Donc il y a vraiment cette idée-là et de se rendre utile aussi, se rendre utile à notre société, parce que contribuer à une PME, c'est contribuer à la richesse économique du territoire et à l'avenir de beaucoup, tous ceux qui sont employés dedans et tous ceux qui sont partenaires avec eux. Donc professionnellement parlant, c'est vraiment un petit peu la réalisation un petit peu de ce qu'on apprend. Maintenant personnellement, c'est un cas pour se challenger, c'est vraiment on va venir défier notre capacité à réaliser Puis aussi parce qu'on apprend énormément avec notre travail en équipe, avec des quotidiens qui sont différents, avec des manières de voir, parce qu'un entrepreneur, quand il a déjà eu plusieurs années de carrière et que ça fait plusieurs années qu'il a monté sa entreprise, voilà, exactement, c'est pas la même mentalité.
Vous avez travaillé pour quel type d'entreprise et qu'est-ce que vous y avez fait, Guillaume ?
Alors personnellement, donc moi je suis avec Trésorium, qui est une entreprise donc du nord de la France, qui notamment s'intéresse beaucoup à tout ce qui est toucher l'éducation pour tous et faire en sorte que cela touche tout le monde. Mmh. Et en l'occurrence, donc ici, nous on s'est intéressé à la question du réseau. Alors là, pour le coup, pas de bol. C'est en l'occurrence très centré sur l'école. L'idée étant d'arriver à essayer d'instaurer une nouvelle forme de réseau, à savoir un réseau qui serait semi-professionnel, semi-personnel au sein de l'école pour pouvoir avoir un meilleur échange et surtout instaurer un système qui serait nouveau. Mmh. Deux mêmes systèmes nouveaux. Le premier, ce qui serait la notion d'apprendre ensemble tout au long de la vie, que l'on soit étudiant, diplômé. L'idée étant, on continue éternellement d'apprendre et on a tous à s'enrichir des uns des autres. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on puisse adopter un nouveau système de recrutement qui soit plus simplement j'ai lu votre CV, j'ai lu votre lettre de motivation, vous paraissez plutôt bien. C'est vraiment plutôt un recrutement naturel, c'est-à-dire on va se rencontrer, échanger, voir si les personnalités aussi vont de pair et pas simplement être dans un entretien avec tout le monde qui se regarde un peu
en surveillance.
Exactement. Mmh. Oui, on va vraiment être là pour le coup sur l'idée d'un recrutement plus personnel.
Voilà, Angélique Figari, vous êtes cofondatrice de la Maison de l'Apprendre. Il y a quand même un lien, alors un lien très, très ténu entre les études de Guillaume et la Maison de l'Apprendre. Peut-être quelques mots déjà pour nous présenter un petit peu la Maison de l'Apprendre. C'est un lieu un peu hybride, alors qui est dans un autre territoire, qui n'est pas dans les Hauts-de-France. Vous êtes plutôt en Auvergne-Rhône-Alpes et plutôt basé à Lyon. Et expliquez-nous un petit peu l'origine de cette Maison de l'Apprendre, Angélique.
Alors, la Maison de l'Apprendre est une association qui œuvre pour permettre à chaque personne d'apprendre et de développer ses compétences tout au long de la vie. Et ça fait complètement écho à ce que Guillaume partageait tout à l'heure sur la nécessité de pouvoir continuer perpétuellement à apprendre et à transmettre. Pour cela, ce qu'on propose, nous, c'est d'accompagner et de fédérer une communauté d'acteurs très diversifiés sur notre territoire, c'est-à-dire des acteurs associatifs, des acteurs publics comme les établissements scolaires, les collectivités locales et les acteurs privés, économiques, qui agissent sur les sujets d'éducation, de formation, d'insertion professionnelle ou encore d'engagement citoyen. Mmh. Et elle soutient des dynamiques de coopération pour répondre par des solutions innovantes à des enjeux du territoire.
Mmh. Alors, comment est née cette idée, Angélique ? Comment vous vous êtes levée un matin en vous disant on va créer des coopérations sur un territoire autour de la question de l'éducation ? Sachant qu'il y a quelques années, la question de l'éducation tout au long de la vie, c'était quand même pas le cœur des politiques publiques. Ça le devient un petit peu, mais ça l'était pas du tout à l'époque.
Oui, alors moi, antérieurement, j'étais fonctionnaire territoriale et j'ai toujours travaillé sur des sujets de politique publique en faveur de l'éducation, dans un champ de la protection de l'enfance qui nécessite que l'on puisse travailler en partenariat et faire travailler ensemble différents acteurs du secteur de la santé, du social, du secteur éducatif au sens de l'instruction, et puis des politiques jeunesse également sur la tranche 12-25 ans. Donc c'est quand même un sujet, moi, qui m'intéresse particulièrement, et ça fait donc plus de 20 ans maintenant que sur ces questions-là. Et pour répondre à votre question spécifiquement sur l'origine de la naissance de la Maison de l'Apprendre, c'est que j'ai fini par quitter une collectivité locale après une rencontre qui m'a particulièrement stimulée avec les équipes du Centre de Recherche Interdisciplinaire notamment et François Taddeï,
absolument,
qui travaillait avec ses équipes, avec l'OCDE, l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale sur la thématique de la société apprenante et de ses enjeux de pouvoir repenser, peut-être réapprendre tout au long de la vie au regard des transformations extrêmement rapides et brutales de notre société.
Mmh. Alors justement, quelles leçons vous tirez de ces années d'expérience de la Maison de l'Apprendre, de cette création d'une société apprenante? Qu'est-ce qu'on peut retirer? C'est, C'est facile, c'est complexe. Quels sont les trésors, les fruits que vous en retirez de ces alliances et de ces coopérations?
Alors, le chemin qu'on a parcouru depuis 2017 met en exergue en fait la nécessité et la pertinence de se relier entre acteurs des apprentissages pour pouvoir faire converger nos forces pour la construction finalement d'une société plus durable, plus égalitaire et où chacun est outillé, quel que soit son âge, pour pouvoir prendre soin de lui, prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Et ça, c'est vraiment les grands enjeux sur lesquels on peut être amené à travailler. Pourquoi on a encore besoin de poursuivre ces efforts? Comme je disais, on est dans une société qui change extrêmement vite, qui fait face à des crises qui sont particulièrement complexes, interconnectées et qui nous obligent finalement à nous lier, à travailler ensemble avec... une lutte partagée contre les tentatives de repli, les peurs des individus, parfois aussi le sentiment d'épuisement ou le fatalisme des professionnels qui agissent dans ces secteurs de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Et finalement, on voit qu'à l'échelle d'un territoire, on a ce dénominateur commun qui permet de croiser nos cultures professionnelles. On est organisé dans une société qui est extrêmement silotée, très cloisonnée, où finalement il y a le monde de l'école, à côté de ça il y a le monde de l'éducation populaire, de la vie associative, puis de l'enseignement supérieur, du monde économique, et finalement c'est autant de risques de créer des fractures pour les publics qui sont les plus vulnérables et qui n'arriveraient pas finalement à s'adapter et à traverser ces différentes étapes.
La maison de l'apprendre, si je comprends bien, Angélique, c'est à la fois l'ODD4, l'éducation, mais c'est aussi un petit peu l'ODD16, l'apprentissage de la citoyenneté, de la gouvernance, du travail en commun, et puis bien évidemment l'ODD17 qui nous réunit autour de ce partenariat avec le Rameau. À l'heure où on enregistre, vous êtes en plein festival de l'apprendre. Parlez-nous un petit peu de ce festival qui se tient tous les ans, c'est ça ?
Oui, effectivement, c'est un festival qui est organisé à l'échelle internationale de manière synchronisée, donc piloté par l'UNESCO et avec le soutien, en tout cas pour la France, du ministère de l'Éducation nationale. C'est un événement qui met en lumière et qui célèbre tous les acteurs, tous les projets sur les différents territoires qui participent à repenser une éducation de qualité au regard des enjeux de notre société et surtout qui met en action cet ODD17 pour permettre aux acteurs d'apprendre à se connaître, d'apprendre aussi à se reconnaître dans leur complémentarité, leur diversité et de nourrir l'envie d'agir ensemble. Donc c'est une semaine d'événements.
Alors qu'est-ce qui s'y passe ? Voilà, on veut savoir parce que il y a des ateliers, il y a des conférences. Là, vous nous avez brossé j'ai envie de dire la plaquette, mais on a envie de rentrer un peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? C'est à destination de qui ? Des jeunes, des professionnels, des parents, des éducateurs, à qui c'est et surtout qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? C'est quoi les grands moments de ce festival ?
Alors, comme je vous le partageais tout à l'heure, on est sur la thématique des questions éducatives, des questions de formation professionnelle, des questions de recrutement inclusif et durable. On est aussi sur la question des compétences qui peuvent être développées au travers d'actions d'engagement citoyen. Donc, finalement, c'est bien toutes ces thématiques qui sont traversées avec une oreille attentive sur les réponses émergentes qui peuvent exister sur notre territoire. Donc, on utilise des temps d'inspiration, ça prend la forme de table ronde où on va questionner l'intégration et la place de l'intelligence artificielle dans le système éducatif, par exemple, et comment on accompagne les postures, les pratiques des enseignants, mais finalement aussi comment est-ce qu'on peut recréer du lien, de la cohésion sociale à l'échelle de nos territoires en faisant se rapprocher des acteurs associatifs, des acteurs économiques au travers de programmes comme le mentorat ou comme des mises en situation par du mécénat de compétences de collaborateurs qui sont curieux et appétents pour aller à la rencontre des jeunes générations. Ça, c'est sur une partie inspiration, de témoignages, de mise en récit de projets. Et puis, il y a une autre dimension qui est aussi le fait de pouvoir vivre des expériences. Donc, sur une approche pédagogique un peu différente, et là, quel que soit finalement son âge ou sa fonction, on va retrouver une programmation. Alors, on essaye de la construire. On a 150 événements sur une semaine.
C'est énorme.
Et on a, pour vous dire, 250 intervenants. Donc, l'enjeu, c'est de réussir à trouver de la continuité et une certaine linéarité au travers de toute cette programmation. Donc, on a vraiment imaginé des séquences en fonction de son âge ou de son profil. On a le samedi une journée pour les familles, pour les enfants, et le mercredi une journée dédiée spécifiquement aux professionnels.
Alors justement, deux questions. Comment est-ce qu'on sait qu'un festival de l'apprendre a été efficace sur un territoire? Parce qu'on parle de jeunes et de territoires, mais c'est bien de faire un festival de l'apprendre, de réunir des gens, mais l'après festival, qu'est-ce qui fait que ça porte des fruits? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit finalement ça a un impact sur notre territoire? On a mis en action des gens et pas simplement réuni des gens à un endroit T à un moment donné.
Alors la notion de convivialité pendant cette semaine est très importante parce que c'est ce qui fait ressentir au-delà du plaisir d'apprendre le plaisir de se rencontrer. Un des indicateurs significatifs de la réussite de ce festival. Alors déjà, ce n'est pas le festival de la Maison de l'Apprendre, c'est un festival de territoire. Et c'est le festival de l'ensemble des structures qui se mobilisent pour le faire vivre et pour sa programmation. On voit d'année en année, on en est à la 5e édition, que les structures viennent sur leur temps. On est sur un événement complètement gratuit et aucun des intervenants n'est rémunéré pour intervenir ou pour proposer une séquence de formation ou d'immersion. C'est un point qui est important parce que cette question de la contrainte économique pourrait empêcher un certain nombre de publics de venir. Et donc, on voit bien que tant du côté du nombre de propositions qu'on reçoit pour contribuer à cette programmation que du côté de la fréquentation des festivaliers, on est sur quelque chose de croissant d'année en année et les structures reviennent. C'est-à-dire que c'est pas un salon professionnel, ça n'est pas un temps événementiel, c'est vraiment un point d'orgue annuel où on se raconte et on partage ce qu'on a vécu chacun ou ensemble sur l'année qui vient de s'écouler et on se retrouve dans un agenda partagé pour l'année à construire ensemble. Et donc on mesure le nombre de rencontres transformantes, si je peux le dire comme ça, qui ont eu lieu pendant cette semaine et qui donnent naissance à des projets de plus ou moins grande taille tout au long de l'année à venir.
Guillaume, vous êtes engagé dans une association aussi qui s'appelle Aurore. En travaillant un petit peu, j'ai l'impression que ça fait écho à ce que vient de dire Angélique Figari sur cette notion de complémentarité, de connexion les uns avec les autres.
Absolument. Donc oui, j'ai la chance d'avoir été secrétaire général donc de cette association d'Aurore, qui a été donc une petite association qu'on a créée à 10, qui là pour l'instant fait un peu son bout de chemin. Et donc en l'occurrence, oui, ça fait complètement écho. Et quand vous prononcez ces propos, Angélique, justement, ça me rassure parce que nous ne sommes pas seuls. Oui, bien entendu, il faut rapprocher des mondes qui parfois sont comme vous l'avez dit, sont très séparés, très cloisonnés, qui ne discutent pas entre eux, et où chacun attend que le pas vienne de l'autre. Et en fait, finalement, pourtant, ces mondes, ils cohabitent tous les jours, ou alors ils finiront par cohabiter. Et donc nous, justement, avec Aurore, une des ambitions dont nous faisions preuve, dont nous faisons toujours preuve d'ailleurs, était de rapprocher le monde de l'entreprise, du monde de l'école et du monde des étudiants. Chacun, tous trois ayant des aspirations parfois différentes, mais qui à un moment devront arriver ensemble et devront cohabiter et co-construire en fait. Parce que le futur n'est pas fait d'individus. Enfin, si, il est fait justement d'individus, mais si ces individus ne se communiquent pas entre eux, nous n'allons nulle part en fait. Et c'est cette volonté de... Souvent, d'ailleurs, les étudiants l'expriment à leur sortie d'école.
Mais pourtant, il y a de plus en plus d'écoles qui font appel à des professionnels dans leurs cours et ce lien devrait se faire aussi assez naturellement. Je me trompe peut-être, mais je trouve qu'aujourd'hui, le monde académique se tourne assez facilement aujourd'hui vers le monde professionnel pour réaliser des cours qui sont peut-être moins dans le cadre académique et dans lequel ils auraient peut-être une réponse moindre qu'un professionnel qui vit au quotidien les problématiques à exposer aux étudiants.
Absolument. Alors après, c'est une des réponses qu'on peut fournir, mais c'est pas forcément dans le cadre d'un cours. Justement, là, justement, on va plutôt faire appel à l'école. C'est vraiment dans un cadre très institutionnel. Là, ici, il s'agit de parler aussi des ambitions des étudiants. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, même à l'intérieur d'une école, on peut le voir dans certains discours des diplômés, il y a parfois un malaise entre la pensée de l'école et la pensée de l'étudiant. Alors avec la pensée de l'entreprise et la pensée de l'étudiant, ça peut vraiment être deux mondes qui ne se parlaient pas, qui arrivent justement et qui se mettent à parler tout d'un coup et devoir se dire, eh ben oui, nous allons au même endroit.
Et à un moment donné, on ira dans le même endroit.
Exactement. Et c'est cette philosophie-là qu'on veut aborder, qui est aussi un aspect personnel et personnalité qu'il faut qu'on puisse ressortir.
Camille, justement, voilà, vous me faites signe et justement, je voulais vous donner la parole. Ça vous fait réagir, ça? On sent que ça vient répondre justement au sujet d'études que vous êtes en train de mener au Rameau.
Oui, tout à fait. En fait, ce que vient de dire Guillaume répond tout à fait à fait écho tout à fait à un des points qu'on a relevé, qui est que en fait l'échelon territorial, c'est pour les jeunes, c'est ce dont je parlais au début, c'est l'endroit où ils peuvent incarner leur volonté d'engagement. Mais d'abord parce que le territoire, il a une triple fonction en fait pour les jeunes, et c'est au sein du territoire que les jeunes peuvent d'une certaine manière s'épanouir et prendre leur place. D'abord parce que la première fonction, c'est que ce dont je parlais, le territoire, c'est l'échelon de l'intérêt général à portée de main. Mais au-delà de ça, c'est aussi un territoire que, quand on grandit, on connaît, on maîtrise et où on se sent à l'aise pour se construire et pour se développer. Ensuite, parce que le territoire, c'est aussi un lieu d'expérimentation où on peut innover. Et dernièrement, ce qui me faisait vraiment réagir, c'est que c'est à l'échelon local, que ce soit au sein d'une université, au sein d'une entreprise ou au sein d'un collectif, sur un territoire, que se crée la confiance entre les parties prenantes d'un projet. Et en fait, c'est à travers l'interconnaissance, le fait de se rencontrer et le fait de mélanger des différents mondes que émergent des solutions innovantes, quoi. Et du coup, ça faisait beaucoup écho à ce que disait Guillaume.
Alors Valérie Dumontet nous a rejoint et vous parliez justement de territoire qui est le lieu de l'expérimentation. On a beaucoup évoqué le territoire. Hein, Valérie, merci de nous rejoindre. Pris entre l'engagement politique et l'engagement professionnel et je suppose aussi l'engagement familial, faut trouver un petit temps pour venir nous causer dans le poste, comme on dit. Mais dans l'Aude, puisque vous êtes quatrième vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, vous êtes en charge de la jeunesse et des solidarités. Vous avez une feuille de route 2021-2025 pour justement redynamiser ces politiques territoriales à destination des jeunes. Peut-être réagir à ce que vous avez entendu de ce que disaient Angélique et Guillaume sur cette place fondamentale qu'est le territoire comme lieu d'expérimentation et en même temps un lieu d'action, pas que d'expérimentation.
Donc oui, la question du territoire, elle est très importante parce que le territoire, c'est avant tout un territoire de vie. Ouais. Et pour des jeunes, un territoire d'envie. Donc, c'est ça qu'il faut travailler, en fait. C'est même si un jour les jeunes partent conquérir le monde, là où ils sont nés, là où ils vivent, là où ils étudient, là où ils sont ancrés, il faut leur apporter des espaces dans lesquels ils se sentent en sécurité et considérés pour pouvoir exercer une citoyenneté.
Alors justement,
et pouvoir exercer leur parole et leur pouvoir d'agir.
Alors justement, comment vous avez pris à bras-le-corps, c'est le cas de le dire, cette question de la jeunesse et des territoires, Valérie Dumontet, pour pouvoir mettre en œuvre. D'abord, quel était le constat du département de l'Aude qui fait qu'on a une vice-présidence en charge de la démocratie et de la jeunesse? Pourquoi avoir lié les deux et quel était le constat qui vous a mis en action dans ce territoire de l'Aude?
Alors, déjà, au départ, ce n'est pas forcément lié, démocratie et jeunesse. Il y a le champ des actions qui concernent la démocratie de manière globale et le champ de la jeunesse. Mais par contre, effectivement, le prisme jeunesse, on lit la question de la démocratie, l'éducation à la citoyenneté, qui est d'ailleurs le 4.7 de l'ODD-4, où tout ce qui est, et ce qui est aussi l'ODD-16 et bien sûr l'ODD-17. Donc, l'approche du département, ça a été le partage de constats sur l'état de la jeunesse ou des jeunesses. Et on l'a fait de façon ouverte en associant à cette réflexion quasiment la totalité des organisations, institutions, acteurs agissant pour la jeunesse ou dans le champ de la jeunesse. On a croisé déjà le regard sur le constat et on a mis en évidence des indicateurs alarmants. Le faible taux de scolarisation, le niveau de formation, la parentalité précoce, le taux de chômage, un certain nombre effectivement d'indicateurs dont on s'est dit
si on n'agit pas,
ils ne sont pas satisfaisants. Comment on agit pour les résoudre? Et parallèlement, on a travaillé sur l'émergence d'un conseil départemental des jeunes où un certain nombre d'éléments sont remontés des jeunes eux-mêmes sur leur propre constat, sur les mots qu'ils ont dit, les mots qu'ils ont employés, le vocabulaire qu'ils ont employé. On a entendu aussi leurs rêves, leurs désirs et aussi la façon de poser ça de façon assez irrévérencieuse.
À la manière d'un jeune, quoi. Forcément un peu irrévérencieux.
Bien
parce
sûr.
Parce que idéaliste et voulant un monde parfait.
Bien sûr. Et on a commencé ce travail de lien pour travailler en alliance sur le département de l'Aude, en croisant un travail de niveau départemental, donc le territoire Aude, et en découpant 8 espaces infraterritoriaux pour agir dans des bassins de vie de proximité, pour prendre en compte les réalités différentes de territoires et pour prendre en compte
Et comment...
la diversité des jeunesses.
Ouais. Et comment justement on va sur le faire alliance? À quel moment on arrive à mettre, j'ai envie de dire, toutes les structures de la jeunesse au cœur de la réflexion? Et Angélique le disait tout à l'heure, très justement, on est quand même dans une société très silotée, où chacun a son petit bout de précaré. Moi, je suis scout, je m'occupe des jeunes. Moi, je suis ouvrier, je m'occupe des jeunes ouvriers. Mais finalement, on se parle assez peu, alors que les problématiques sociales, sociétales sont parfois communes. Comment est-ce que vous avez pu réaliser cette mise en connexion des uns avec les autres pour justement après co-construire une politique publique qui soit efficace?
Donc ça a été une initiative du département, enfin de moi en tant que vice-présidente, hein, parce qu'à un moment donné, remonter des différents croisements de regards, un certain nombre de problématiques et de controverses, peut-être. C'est-à-dire, dans ce travail de partage de constats, de regards communs, et remonter qu'il y avait des moyens en direction de la jeunesse importants, mais cloisonnés dans des dispositifs, inscrits dans une logique d'appel à projet, peu visible, fonctionnant en silo, parfois en doublon. Ça, c'est ce qu'on appelle les controverses. C'est-à-dire, il y a des moyens importants, mais des partenaires territoriaux actifs, des actions peu liées les unes aux autres, un émiettement des moyens, peu d'outils d'évaluation de mesure d'impact. Donc voilà, on a fait un travail comme ça. Et donc, au fur et à mesure qu'on mettait en avant ces controverses, est apparu effectivement l'enjeu de dire, maintenant, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? C'est-à-dire que moi, je me dis, en tant que présidente, j'en entends plus d'entendre dans les réunions qu'il faut faire... Il faut améliorer la communication. Non, ce n'est pas une question de communication. C'est une question de changement de paradigme de collaboration, de passer à un système d'alliance et non pas à une addition de dispositifs dont on fait une concertation dans des réunions.
C'est intéressant. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. Je me permets de vous couper. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a deux choses que je souligne. C'est que déjà, vous mettez les jeunes en action et on n'est pas dans un dispositif on fait pour les jeunes, mais on fait pour les jeunes avec les jeunes et par les jeunes. C'est-à-dire que la jeunesse est intégrée dans la réflexion et c'est pas que des vieux barbons comme nous qui théorisons ce que devraient être les politiques de jeunesse. Je vois Guillaume qui opine, qui hoche la tête, mais c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire avec, et c'est un peu d'ailleurs tout le génie peut-être de Baden-Powell dans le scoutisme, d'avoir dit on va faire de l'éducation du jeune par le jeune. Mais c'est un peu ça que vous avez, sur quoi vous arrivez en conclusion, Valérie, sur le territoire de l'Aude.
Alors, on a fait les réflexions parallèles, les jeunes d'un côté, les organisations institutionnelles de l'autre, Là, on en est au stade où on a progressé et sur le Conseil départemental des jeunes et donc la mobilisation des jeunes. Je précise que le Conseil départemental des jeunes n'a pas de limite de nombre. Il n'y a pas un système d'élection, de représentation. Mmh. Les entrées et sorties permanentes, c'est un élément important. Ce n'est pas une institution fermée, cloisonnée, avec des dates d'élection, etc. Voilà. Tout jeune peut être membre du conseil départemental du jeune. Et là, on en est au stade où les deux démarches ont progressé et on va pouvoir maintenant faire des connexions.
D'accord. Donc,
sur l'opérationnalité.
Donc, l'objectif,
parce que
c'était…
Il y a quelque chose que je veux…
Ouais, allez-y, terminez, ouais, je vous en prie.
Oui, parce que oui, c'est très important de travailler avec les jeunes, mais le constat que j'ai fait, moi, c'est qu'à un moment donné, il faut passer du temps aussi avec les organisations pour justement dépasser le cloisonnement et construire l'alliance. Donc et qu'il y a des temps qui sont nécessaires de séparation, du travail de séparation.
C'est intéressant parce qu'en fait, votre programme, il était sur 2021-2025. 2025 arrive et on sent que vous touchez vite. Il vous reste 18 mois finalement pour remplir la feuille de route. Mais on sent bien que voilà, les étapes ont été posées sur ces 4 années. Camille, peut-être une réaction, vous, en tant que chef de projet Jeunes et Territoires 2050, sur cette expérimentation, et plus qu'une expérimentation, cette mise en acte de ce qui se fait dans l'eau et de ce que porte Valérie Dumontet et ses équipes et les acteurs du territoire.
Oui, tout à fait. Bah oui, c'est important de souligner que le département de l'Aude a été reconnu comme initiative innovante au sein du programme Jeunes et Territoires 2050, parce qu'on s'est appuyé pendant cette période de cadrage sur 12 structures sur plein de territoires différents à l'échelle de la France métropolitaine et ultramarine. Notamment le département de l'Aude et la Maison de l'Apprendre en faisaient partie. Mmh. Moi, ce qui me paraît intéressant aussi de souligner ici, c'est qu'il y a une question de méthode qui est importante. C'est comment est-ce que, quelle méthode on applique pour justement réussir à travailler en commun et à faire de la co-construction, ce qui n'est pas évident. Et comment est-ce que on arrive à trouver un dialogue comment on se met d'accord sur les mots, enfin toutes ces questions-là. Et derrière cette question, j'ai l'impression que il y a aussi la question de l'écoute. C'est aussi apprendre à écouter les parties prenantes qui sont différentes. Et c'est d'ailleurs sur cette méthode-là de l'écoute qu'on a construit notre phase de cadrage. En partant bien évidemment de ce que nous disent à la fois les jeunes, à la fois les structures de la société civile qui accompagnent les jeunes, à la fois les politiques publiques qui tentent de répondre aux aspirations des jeunes et aux besoins des structures qui les accompagnent, et puis essayer de mettre en dialogue et de faire débat avec toutes ces parties prenantes-là qui construisent l'écosystème de la jeunesse aujourd'hui.
Et puis je renvoie à l'échange qu'on avait eu avec Laurent Lély, qui disait bien que la vraie problématique quand on essaye de faire des connexions, c'est de parler le même langage. Il avait toute une réflexion sur la notion du langage. Mais c'est vrai que lorsqu'on est élu, quand on est un jeune étudiant, quand on est cofondateur ou cofondatrice d'une structure associative ou chef de projet, eh bien, sous le mot éducation, sous le mot jeune, parfois même, on ne met pas forcément le même sens et savoir parler de la même chose avec le même langage. Je sens que Valérie voulait réagir. C'est essentiel pour faire avancer le dossier et les sujets.
C'est essentiel, y compris aller jusqu'à des glossaires
Vous
du langage commun. Ben oui, parce que pour bien définir que sur un mot, on a voilà. Bon. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un élément très important par rapport à l'alliance. C'est que, par exemple, le département, on met de la ressource humaine, on met des moyens financiers parce qu'on croit dans cette démarche. Maintenant, quand on travaille au sein de l'Alliance, on doit prendre la posture égalitaire. Pas parce qu'on met des moyens ou que les autres ne le mettent pas. On veut prendre le leadership du management. Donc, ça veut dire aussi changer complètement la forme de nos travails. C'est-à-dire que sur un projet, c'est un tel qui va prendre un chef de fila, un autre projet, un chef de fila. Voilà, ça veut dire qu'on retravaille complètement aussi la façon de manager les projets collectifs.
Angélique, vous vouliez réagir.
Oui, en complément de ce qui peut être partagé sur les questions liées au vocabulaire et au langage qu'on peut utiliser, nous, il y a un point qui nous semble extrêmement important, c'est la question des représentations, des conventions un peu tacites, hein, qui finalement viennent impacter nos pratiques, nos postures, et développer des partenariats, des alliances et être dans des dynamiques de co-construction et non pas, parce qu'on peut aussi avoir un partenariat prescripteur, et d'être dans cette co-construction de solutions nouvelles, ça veut dire être capable aussi de prendre en considération les représentations qu'on peut avoir les uns sur les autres et de les mettre en dialogue. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que si on veut arriver sur une gouvernance plus partagée, d'avoir la capacité finalement d'exprimer pourquoi au sein de cette alliance on vient avec des besoins ou des enjeux différents et de pouvoir les mettre en perspective. Il me semble que c'est quelque chose effectivement qui nécessite de prendre soin de la relation.
Allez, on arrive au terme de cet échange passionnant d'ailleurs et qui va peut-être susciter des réflexions. Vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous écrire au Rameau ou à moi-même et je transmettrai les informations sur ce qu'on a pu échanger. Pour répondre à cet objectif de 2050, Jeunes et Territoires 2050, je posais la même question à tout le monde. Quel est le levier que vous voudriez actionner les uns et les autres ? Ça peut-être d'ailleurs venir en plus enrichir la réflexion de Camille et de l'étude. C'est quoi le levier essentiel qui pour vous qu'il faut actionner, voilà. Et dès qu'il y en a un qui a une idée, il lève le doigt comme à l'école. Angélique.
En synthèse et pour un futur désirable, je crois que le fait d'unir nos engagements et nos expertises, d'aller vers cette intelligence collective, rend possible en fait un changement profond et durable de notre société, de notre système. Et qu'il nous permet tout simplement de passer, et là je vais emprunter une expression de Charles-Benoît Hetsiek, d'une logique de performance individuelle à une dynamique de pertinence collective. Et je crois que c'est ça dont on a collectivement besoin.
Guillaume et puis Camille ensuite.
Je vais rejoindre un peu ce qui vient d'être dit à l'instant, mais l'idée pour moi étant... il faut qu'il y ait un changement justement de mentalité en quelque sorte, qui est de réellement se dire que le monde avec tous les défis que l'on a face à nous, tout ce qui est lié au réchauffement climatique et à tout le changement climatique, et tous les autres défis mondiaux, géopolitiques, etc., il faut accepter que l'avenir ne sera pas construit cloisonné et qu'il est l'heure de s'auto-contribuer à tous. Et que c'est la meilleure manière pour nous de progresser et que c'est vraiment une progression commune, en fait. Et pour moi, le levier majeur, c'est d'arriver justement à faire évoluer cette mentalité qui pourtant est assez ancrée vers justement quelque chose de vraiment plus commun.
Camille, et puis on terminera avec vous, Valérie. Vous aurez le mot de la fin.
C'est drôle parce que ça fait complètement écho à ce qui a été dit auparavant. Moi, le levier que j'aimerais activer, c'est celui de la reconnaissance, c'est-à-dire... comprendre que on a tous des points communs et que même si ça paraît pas évident comme ça, si on cherche, on se reconnaîtra les uns dans les autres.
Et vous Valérie, du point de vue où vous êtes, quel est le levier que vous voudriez actionner ?
Passer de l'entre-soi à l'entre-nous, comme dit Charles-Benoît Hetsiek aussi, et d'autres des sociologues, et se construire une matrice commune, et aujourd'hui, et faire l'aller-retour entre le pragmatisme du terrain et de l'opérationnalité, et de se donner les outils d'évaluer en quoi ils contribuent à l'atteinte des ODD, qui sont une matrice internationale universelle. Et donc, cette mise en perspective permet d'agir en respectant les différences tout en travaillant à un cadre universel.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. On se retrouve dans un prochain épisode de Comment vas-tu bien la planète d'ici quelques semaines. En tout cas, bonne continuation à toutes et à chacun et à chacune dans vos missions respectives, que ce soit à Lyon, à la Maison de l'Apprendre, que ce soit vous, Guillaume, à la fois dans vos études et dans votre engagement associatif à Aurore, Valérie, dans votre territoire et dans les enjeux de territoire dans lesquels vous vous êtes engagé. Et puis vous, Camille, pour nous produire en 2027 un très beau rapport d'études qui nous en dira encore plus avec tous les leviers à actionner pour bien prendre en compte la jeunesse dans les territoires pour justement développer ensemble et remplir les objectifs de l'agenda 2030. Merci, à très bientôt, au revoir, bonne continuation à toutes et à tous, au revoir.
Hello, salut, comment ça va ?
C'était Comment vas-tu bien la planète, saison 3, épisode 5, un épisode en partenariat avec le Rameau. Si vous aussi, vous souhaitez être partenaire de l'une de nos 17 collections dédiées au développement durable, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet MediaAdvise, MediaAdvize.fr.